dans l'action de grâce pour l'ordination hier à la cathédrale de Bayonne d'un nouveau diacre en vue du sacerdoce, originaire d'Andaye, Amador, qui a fait sa formation à Ars, et d'un nouveau prêtre pour notre diocèse de Bayonne, Paul-Marie Boutin, originaire par sa maman d'Amandoche, en Amicousset, près de Saint-Palais, et qui actuellement célèbre sa première messe avec sa famille et les fidèles d'Amicousset, qui étaient d'ailleurs bien représentés hier pour son ordination. Je suis heureux de célébrer cette fête de l'Épiphanie 2015 avec vous, chères sœurs servantes de Marie, et en particulier vous, les chères sœurs jubilaires. Nous voulons en effet jubiler avec vous aujourd'hui dans la louange et l'action de grâce. Nous sommes si bien aidés par le cœur des anges qui s'est élevé dans la nuit de Bethléem et qui a chanté à travers des polyphonies sacrées dont Dieu et vous-même avez le secret, le gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et nous sommes heureux d'ouvrir ainsi, tant hier par l'ordination d'un nouveau diacre et d'un nouveau prêtre, une belle espérance pour le diocèse, je pense que nous le mesurons tous. Et aujourd'hui, par cette célébration d'action de grâce pour les sœurs jubilaires, en cette fête de l'Épiphanie, notre année sestaque, puisque Dieu nous fait la grâce de nous donner à travers ce prêtre de Bayonne et ce fondateur des servantes de Marie et des Bernardines, un nouveau bienheureux. Vous savez que Benoît XVI a rapatrié, pourrait-on dire, la célébration des béatifications dans les diocèses, se réservant seulement, comme c'était le cas dans la tradition de l'Église, les canonisations à Rome, pour bien signifier qu'un bienheureux, c'est d'abord quelqu'un de chez nous, et qui devient pour l'Église locale, et pour ses filles en particulier, mais pour l'ensemble du diocèse, un nouvel intercesseur dans le ciel et un modèle à imiter, dont il nous faut redécouvrir sans cesse l'actualité de la sainteté pour nous, aujourd'hui. Et si nous avons choisi pour l'ouverture officielle de cette année sestaque, en tout cas pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Leron, cette fête de l'Épiphanie, c'est parce qu'évidemment, cette solennité a une importance toute particulière dans la vie du père sestaque et dans son œuvre. Né à Bayonne le 6 janvier 1801, non seulement à la vie de la terre, mais à la vie du ciel, puisque c'est à la fois le jour de sa naissance et de son baptême, qui marquera aussi les premiers pas des servantes de Marie, puisque c'est un jour d'épiphanie que se célébreront les premiers vœux des premières servantes de Marie. C'est vrai que dans le cœur de Dieu, il y a plus qu'une occurrence liée à la vie et à l'œuvre du Père Sestaque, parce que cette fête est marquée au coin de l'universalité de l'Église et du salut que le Christ Jésus est venu apporter pour tous, et nous dépassons notre Église locale et nous dépassons notre communauté resserrée autour de son fondateur, ici en particulier à Notre-Dame du Refuge d'Anglette, d'où tout est parti, pour essaimer précisément jusqu'aux extrémités de la terre. Si à Noël, à travers l'adoration des bergers, nous avons conscience qu'un peuple particulier, qui est le peuple d'Israël, accueille son Sauveur promis, son Messie, annoncé par les prophètes, à l'Épiphanie, à travers ces mages mystérieux venus d'Orient, de très loin, guidés par une étoile mystérieuse, jusqu'à la crèche de Bethléem, nous comprenons que ce Jésus, qui est pourtant bien de sa race, bien de sa terre, bien de son peuple, est venu pour tous. Pour le monde entier. Et l'Église l'a toujours compris dans sa formidable expansion missionnaire depuis l'époque apostolique où les apôtres sont allés, selon le commandement du Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Le père Sestac pensait-il, lui, que les servantes de Marie iraient s'implanter en Inde, en Argentine, en Côte d'Ivoire, quasiment sur tous les continents? Mais c'est une nouvelle manière aujourd'hui de comprendre l'universalité. Car nous ne sommes plus dans la capacité, nous, d'envoyer beaucoup de missionnaires vers les terres lointaines qui sont toujours à évangéliser. Mais cette universalité, ça veut dire aussi d'accueillir dans nos églises locales, autrefois puissantes devant Dieu et devant les hommes, des réalités qui viennent d'ailleurs, des réalités extérieures. C'est difficile à comprendre et à intégrer que l'universalité de l'Église va jusque-là. Pourquoi faut-il que nous ayons, au moins pendant quelques années, des prêtres qui viennent d'Afrique, alors qu'il y a 100 ans, nous envoyons des bataillons de missionnaires, prêtres ou religieuses, pour annoncer l'Évangile sur une terre où le Christ n'avait pas encore été proclamé? Pourquoi faut-il que nous ayons besoin, humblement, pauvrement, en regardant l'enfant Jésus dans sa pauvreté, sa fragilité, dans la crèche de Bethléem, que nous sommes venus avec les bergers et avec les mages adorés, accueillir des réalités nouvelles qui viennent d'on sait où, que nous n'avions pas prévues, qui ne sont pas dans nos schémas habituels, mais pour qu'après cette adoration, nous retournions comme les mages dans notre pays par un autre chemin. Par un autre chemin. L'universalité de l'Église qui doit se vivre au quotidien. Et c'est tout un travail de conversion personnelle pour chacune et chacun d'entre nous, dans nos diocèses de vieille chrétienté, un peu fatigués, mais qui ont encore tellement de ressources dans le cœur, n'est-ce pas? Et votre présence ici, vous les sœurs jubilaires, 70, 65, 60, 50, 25, c'est tout neuf encore. La consécration religieuse est le signe de ces ressources pour notre diocèse, ressources cachées dans le cœur, dans la pauvreté de nos épreuves d'aujourd'hui. Comment accueillir à la crèche de notre Pays basque et de notre Béarn des réalités nouvelles qui nous aident à vivre cette universalité pour retrouver cette dimension universelle du salut et profondément missionnaire de notre vie chrétienne. Puis je voudrais souligner aussi le lien que je vois providentiel entre l'ouverture hier dans la cathédrale glaciale. Il faisait très beau dehors, mais très froid dans la cathédrale. Ici, il pleut dehors, mais on est bien là. Il fait bon ici, dans cette chapelle de Notre-Dame du Refuge. Le lien qu'il y a entre cette ordination d'un nouveau diacre, d'un nouveau prêtre, pour ouvrir l'année Sestac, et se rappeler en effet que le père Sestac, avant d'être le fondateur des Servantes de Marie, pardonnez-moi, est d'abord un prêtre diocésain de Bayonne, qui après avoir été 10 ans professeur de philosophie au petit séminaire de La Ressort, a été 20 années durant simple vicaire à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne avant de devenir chanoine et de pouvoir se retirer allègrement au milieu de son œuvre à Notre-Dame du Refuge où il allait de plus en plus souvent, de Bayonne à Anglette. C'était plus difficile à atteindre qu'aujourd'hui. Je me souviens de ce qu'on m'avait raconté la première fois que je suis venu vous voir, de Monseigneur Lacroix, je crois, venant ici, il gelait à Pierrefendre et il était obligé de terminer à pied. On était gelé, il fallait briser la glace pour pouvoir boire un peu d'eau. On n'en est plus là, avec le réchauffement climatique. Il y a un lien entre cette ordination pour souligner la figure sacerdotale et le ministère pastoral particulier de ce père Sestac dans la cathédrale de Bayonne. Et cette ouverture aujourd'hui avec ses filles, les servantes de Marie, et cette œuvre qu'il a accomplie, en suscitant cette congrégation qu'il n'avait pas prévue, de servantes de Marie, appuyées par la contemplation des Bernardines, pour le service des pauvres orphelines, des prostituées pénitentes, qui viendront ici, dans ce beau lieu de Notre-Dame du Refuge, qui lui a été donné de manière tellement providentielle, guidée par Marie, lui qui était allé à Buglose, nous avons le recteur de Buglose ici, magnifique aujourd'hui, vicaire général du diocèse d'Eredax, où il est allé demander ses 50 000 francs, là, que tout le monde lui refusait, pour trouver un domaine qui permettrait d'accueillir ses prostituées pénitentes, et la Sainte Vierge qui l'empêche même de prononcer et de formuler cette prière et qui lui dit « Ne me demande que mon esprit. Ne me demande que mon esprit. » J'étais très touché hier, je lui avais demandé, mais il l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme, à la fin de l'ordination, quand ce jeune prêtre, qui venait tout simplement de devenir prêtre, a prononcé une consécration de son sacerdoce au cœur immaculé de Marie, en employant les belles paroles de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et qui nous rejoignait là, qui nous faisait rejoindre l'ordination du Père Sestac, qui disait, si j'ai bien compris, après avoir reçu l'onction de ses mains suffisamment fort pour que son premier compagnon d'ordination l'entende prononcer ce cri de son âme, « Très Sainte Vierge, avec mes mains consacrées, je t'offre mon cœur et toute ma personne. » Mais le lien, mes chères sœurs, entre cette ordination sacerdotale et cette célébration jubilaire pour ouvrir ensemble cette année Sestac pour le diocèse de Bayonne en vue de préparer cette béatification de Louis-Édouard Sestac le 31 mai prochain à la cathédrale de Bayonne, je le vois là. Les servantes de Marie sont le prolongement exact du ministère pastoral sacerdotal du vicaire de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Dans toute la vie de vicaire, comme je le disais hier à ce jeune prêtre, en forme de recommandation, tourne autour de trois pôles. La confession, pas seulement l'acte sacramentel, où l'on reçoit à travers ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation qu'il nous faut redécouvrir dans l'Église, chers frères et sœurs, dont il nous faut redécouvrir la pratique, pour en découvrir tous les fruits de grâce. Mais le dialogue pastoral de proximité, avec les âmes assoiffées de paix, de justice, d'amour et de vérité. Mais ce besoin de réconciliation avec Dieu et avec les hommes, qui traverse nos communautés ecclésiales, qui traverse notre société brisée d'aujourd'hui, éclatée, qui traverse nos familles explosées, qui traverse le couple. Cette réconciliation que le Christ seul peut nous donner et qui trouve son expression la plus belle dans ce beau sacrement, cette parole de réconciliation. Le Père Sestac a été un confesseur, pas seulement au confessionnal, de la chapelle Saint-François de Sales, de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, mais à domicile, parce que vous savez qu'il logeait encore dans sa famille, tout en étant rue d'Espagne, tout en étant vicaire à la cathédrale, et on venait jusque chez lui pour demander ce beau sacrement. Il réunissait des jeunes en leur disant « Vous vous confessez pour communier tous les jours !» Et ils venaient à lui. La pénitence qui est liée aussi, vous avez parlé de l'esprit de pénitence, dans lequel vous a enseigné le Père Sestac en cette première épiphanie qu'il a célébrée avec les servantes de Marie. Nous n'apportons plus la myrrhe, mais l'esprit de pénitence qui doit caractériser la vie des servantes de Marie comme de tout chrétien. Le deuxième pôle, l'exposé de la foi, l'enseignement de la parole de Dieu et de la vérité de la foi. Il y a tant d'hommes et de femmes qui cherchent une vérité qui soit capable de rendre compte de manière exhaustive de leur vie, qui répondent de manière globale à leurs questions les plus existentielles. Nous l'avons, cette vérité. Ce ne sont pas des principes, des énoncés conceptuels. C'est une personne qui a un nom et un visage. C'est Jésus-Christ qui seul peut dire et qui le répète sans cesse à travers nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui conduit à la vérité tout entière et à la vie en plénitude. Le Père Sestac, comme simple vicaire, il a voulu mettre cette vérité au service des âmes, des pauvres qui venaient à lui. Il a même conçu un exposé de la foi, un catéchisme. Je ne dis pas un catéchisme pour les nuls, mais un catéchisme pour les âmes assoiffées de vérité. Et ô combien elles sont nombreuses quand on sort un peu de nos petits cercles. On se pose des questions byzantines sur le fonctionnement de l'institution. Et qu'on est en contact avec tous ces gens qui sont autour, aux périphéries, comme je le fais souvent, pour ma part, non seulement dans les visites pastorales, mais avec le tout venant que je rencontre, qui vient à moi, vers lequel je vais, qui sont assoiffés de cette vérité. Assoiffés de cette vérité. Tous ceux qui vont au pape François aujourd'hui, qui sont assoiffés de vérité. Assoiffés de vérité. Qui ont faim et soif de Jésus. Et enfin, ce troisième point, les pauvres. La fameuse option préférentielle pour les pauvres, ça veut dire quoi? Au-delà de nos théories, de nos idéologies, cette proximité, cette rencontre avec le pauvre, pour faire quoi avec le pauvre? Pour lui annoncer l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Pour annoncer l'Évangile aux pauvres, tous ces pauvres vers lesquels le Père Sestac est allé, pour lesquels le Seigneur a suscité la congrégation des servantes de Marie, qui vont avoir toute une année pour approfondir le charisme du fondateur. Qu'est-ce que nous faisons pour annoncer l'Évangile à tous ces pauvres dans nos institutions si belles et si importantes ici à Anglette, dans notre diocèse? Ici en particulier, notre âme du refuge, qu'est-ce que nous faisons pour continuer dans le charisme de votre fondateur, vous, mes sœurs, pour annoncer l'Évangile aux pauvres qui doivent avoir en effet une priorité dans le ministère du prêtre et dans le prolongement du ministère du prêtre qui a été le Père Sestac, des servantes de Marie et des Bernardines qui portent tout ça dans la contemplation, dans la prière, dans l'adoration. Car, j'ai bien aimé, je voudrais conclure là-dessus, parce que je sens que je vais être un peu long, je me laisse emporter là. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé admirable cette conférence donnée par sœur Jacqueline Bordenave, votre supérieure générale, aux prêtres basques, lors de leur récollection d'avant à Belloc, au mois de décembre, où elle a insisté sur le lien entre le Père Sestac et l'Eucharistie. Le secret de la fécondité du Père Sestac. Fécondité en termes de charité inventive à l'infini. C'est son rapport à l'Eucharistie. Son lien avec le saint sacrifice de la messe, comme il dit, avec le vocabulaire de son temps, mais qui n'est pas suranné d'ailleurs, qui est toujours présent dans les textes du Concile Vatican II. Avec son prolongement dans l'adoration eucharistique. Voyez, nous revenons, j'allais dire, à la conclusion que je voulais apporter à ça. L'adoration des mages, à la suite de l'adoration des bergers. Les bergers, ils attendaient un Messie qui les libérerait de l'occupation romaine. Ils attendaient un guerrier, comme Judas Maccabée, et un nouveau-né, couché dans une crèche, qui porte, selon Isaïe, l'insigne du pouvoir sur son épaule, qui mérite le titre de conseiller merveilleux, prince de la paix, Dieu fort, père à jamais. Un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Les mages, ils attendaient un roi, avec une vision un peu plus large, plus universelle, qui pourrait résoudre tous les problèmes d'une société chaotique. Et ils étaient prêts à mettre leur argent, leur or, leur savoir-faire de savants de l'Orient au service de ce roi, ce grand roi dont ils avaient vu l'étoile se lever dans le ciel et qui les a conduits où ? Un nouveau-né couché dans une mangeoire. Nous nous attendons aussi en France un homme providentiel, un homme d'État qui enfin résoudrait tous les problèmes. Alors ce sera lui, ce sera lui, ce sera lui, ce sera lui, et puis tous les paris sont ouverts, hein, et tous les coups sont permis. Un nouveau-né, couché dans une crèche. Vous, mes sœurs, vous attendez, pleines d'espérance, un renouveau des servantes de Marie. Vous ne vous contentez pas de voir qu'il y a des jeunes qui rentrent en Inde dans votre congrégation, mais vous voudriez aussi qu'elles vous rejoignent ici, sur notre terre française, basque, béarnaise. Ah, vous allez faire des audits, vous allez faire des grands plans pour aborder l'avenir, un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Alors, chers frères et sœurs, devant tous les problèmes que nous voyons s'amonceler comme des nuages à l'horizon, toutes les solutions que nous avons en poche, toutes meilleures les uns que les autres, qu'il faut mettre en débat, en discussion, un nouveau-né, couché dans une mangeoire, dans une crèche, qui dans sa fragilité porte le salut du monde, qui ne vient plus à nous aujourd'hui, c'est vrai, emmailloté de l'ange, mais enveloppé dans la parole qui est proclamée dans la liturgie, enveloppé dans les apparences pauvres, humbles, dérisoires, du pain et du vin consacrés, dans la célébration quotidienne de la messe, dans l'adoration de Jésus présent dans l'Eucharistie, qui suscitera dans notre cœur des élans nouveaux, des idées nouvelles pour résoudre toutes les questions qui se posent à nous et qui se posent aux pauvres toujours plus nombreux qui nous entourent et qui ne sont pas seulement des pauvres matériels, mais aussi des pauvres spirituels. Allez, chers frères et sœurs, venez, adorons-le et retournons chez nous par un autre chemin.